Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 20 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Ici, aux États-Unis, Donald Trump sera investi ce lundi pour un second mandat à la présidence des États-Unis en tant que 47e président. Dans cette édition, nous parlerons également de cette cérémonie qui est un des événements marquants de la vie politique américaine et vieille de plus de 200 ans. Les trois otages israéliennes libérées dimanche par le Hamas sont arrivées en Israël au premier jour du cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le mouvement palestinien. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe armé M23 a pris le week-end le contrôle de la Lubumbashi. Et dans notre partie magazine, à Libreville au Gabon, commerçants et petits artisans tirent la sonnette d'alarme et réclament une harmonisation des taxes sur le marché.
On n'arrive pas à payer les loyers parce que ça a mis beaucoup de commerçants ici dans de sérieux problèmes. On était obligé de prêter, monter, descendre, prêter l'argent à gauche, prêter l'argent à droite.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Donald Trump sera investi ce lundi pour un second mandat à la présidence des États-Unis en tant que 47e président. La cérémonie se déroulera au Capitole à Washington DC, la capitale fédérale américaine. Davantage avec Claire Morin-Gibourg.
L'investiture se déroulera sous la rotonde du Capitole plutôt qu'en extérieur sur les marches, comme traditionnellement prévu en raison du froid polaire qui touche la capitale fédérale. La cérémonie sera retransmise dans une grande salle de sport de 20 000 places, la Capital One Arena. Le nouveau président participera ensuite à trois galas parmi la dizaine de fêtes prévues. Les festivités se termineront mardi matin à la cathédrale de Washington. Monsieur Trump a promis qu'il signerait un nombre record de décrets présidentiels après avoir prêté serment. Parmi ses priorités, il a évoqué l'expulsion de millions de migrants clandestins, une hausse des droits de douane contre le Mexique, le Canada et la Chine, ainsi qu'une dérégulation dans les secteurs de l'énergie et du climat. Il a aussi réaffirmé son intention de gracier certains de ses partisans impliqués dans l'assaut du Capitole en janvier 2021 et de défaire les politiques de son prédécesseur démocrate Joe Biden, qui quittera ses fonctions à midi lundi. Accompagné de son épouse Melania et de leur fils Baron, le couple Trump est arrivé samedi de leur résidence de Mar-a-Lago, en Floride.
À la veille de sa prestation de serment, Donald Trump a promis lors d'un ultime meeting d'agir à une vitesse et avec une force sans précédent pour arrêter l'invasion des frontières, doper la production pétrolière et barrer la route aux idéologies woke de la gauche radicale. Donald Trump, qui a encore dénoncé ce qu'il a appelé quatre longues années de déclin américain sous Joe Biden, a promis une rafale de décrets dès ce lundi, en particulier sur la lutte contre l'immigration clandestine, au axe majeur de sa campagne. Autre mesure attendue, des grâces pour les personnes condamnées pour l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump, dans un discours d'une heure, a assuré à ses partisans qu'il serait très heureux de la décision qu'il prendra en la matière lundi. La cérémonie d'investiture du président des États-Unis est un des événements marquants de la vie politique américaine. Elle se tient tous les 4 ans après chaque élection présidentielle et après le remplacement d'un président qui n'a pas pu terminer son mandat. C'est une tradition vieille de plus de 200 ans. Abdourahmane Dia.
Depuis plus de 200 ans, les citoyens américains assistent aux cérémonies d'investiture du président et du vice-président des États-Unis. La première investiture a eu lieu en 1789, quand le premier président George Washington a prêté serment au Federal Hall de New York, qui était alors la capitale fédérale des États-Unis. L'investiture est un moment solennel qui matérialise le changement ou la continuité à la tête de la nation. Le comité mixte du Congrès pour les cérémonies d'investiture assure que depuis 1901, et conformément au 20e amendement, il est responsable de l'organisation des cérémonies d'investiture du président élu et du vice-président élu des États-Unis au Capitole, qui est le nom du bâtiment qui abrite le Parlement. Selon le Conseil des relations extérieures, Washington n'est devenue la capitale du pays qu'en 1800, juste avant que Thomas Jefferson ne prête serment en tant que troisième président. Et depuis, les présidents élus ont prêté serment à Washington. Selon le think tank, quatre vice-présidents ont prêté serment en dehors de Washington après le décès du président en exercice. Jusqu'en 1937, les présidents étaient investis le 4 mars ou le 5 mars, lorsque le 4 mars était un dimanche. Le 20e amendement de la Constitution ratifié en 1933 a déplacé le jour de l'investiture au 20 janvier. Selon le Conseil des relations extérieures, le seul président élu à n'avoir pas été investi ni en janvier ni en mars est George Washington. Sa première investiture a eu lieu le 30 avril 1789. La cérémonie d'investiture de Donald Trump de ce lundi a été déplacée à l'intérieur du Capitole en raison du froid polaire qui s'abat sur Washington. Il s'agit de la deuxième investiture organisée à l'intérieur du Capitole en 40 ans, après celle de Ronald Reagan en 1985, lorsque la température dans la capitale fédérale américaine était de moins 13 degrés Celsius.
Nous reviendrons sur cette investiture du président élu Donald Trump dans notre partie magazine. Toujours aux États-Unis, les pompiers qui combattent les incendies qui ravagent Los Angeles depuis des jours et tuent au moins 27 personnes se préparent à un retour de vent fort lundi. Le gouverneur de Californie disant espérer qu'il s'agisse du dernier épisode similaire. Les deux principaux feux qui ont détruit près de 16 000 hectares et rayé de la carte des quartiers entiers de la seconde ville des États-Unis sont désormais contenus à plus de 50% selon les autorités. La calmie des vents ce week-end a permis aux autorités de lever des ordres d'évacuation dans de nombreux quartiers de la ville, permettant à des milliers d'habitants de revenir chez eux. Le réseau social TikTok a annoncé dimanche qu'il travaillait à rétablir l'accès à son application aux États-Unis après avoir suspendu son service pour se conformer à une loi votée l'an dernier interdisant la plateforme. La société a exprimé sa gratitude envers Donald Trump pour son intervention, soulignant qu'il avait rassuré les fournisseurs d'accès à Internet et les boutiques d'applications, les exemptant des lourdes amendes liées à cette législation. Ce décret de Trump, qui devrait suspendre la loi une fois qu'il prendra ses fonctions, pourrait permettre à TikTok de poursuivre ses activités aux États-Unis tout en envisageant une solution à long terme. Les trois otages israéliennes libérés dimanche par le Hamas sont arrivés en Israël au premier jour du cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le mouvement palestinien. Sur ce répit offre une lueur d'espoir dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 15 mois de guerre, et constitue un soulagement pour les familles des otages israéliens libérés. Les détails avec Nani Talani.
Les otages libérés sont Emily Damari, 28 ans, Dorance Tebrecher, 31 ans, et Romy Gonen, 24 ans, enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël qui a déclenché la guerre à Gaza. D'après le Hamas, la prochaine libération d'otages aura lieu samedi prochain. Des milliers de déplacés palestiniens ont pris la route pour rentrer chez eux lorsque les armes se sont tues à 9h15 temps universel. La plupart n'y ont trouvé que des ruines, évoquant des destructions indescriptibles. Par ailleurs, les premiers camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza. Selon l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés dans une première phase de 6 semaines. En échange, les autorités israéliennes ont dit qu'elles libéreraient dans ce délai quelques 1900 Palestiniens, dont 90 devraient l'être dès dimanche. L'entrée en vigueur de l'accord nourrit l'espoir d'une paix durable dans le territoire palestinien, même si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu qu'il s'agissait d'un cessez-le-feu provisoire et qu'Israël se réservait le droit de reprendre la guerre. Par ailleurs, la branche armée du Hamas a dit que la trêve dépendait du respect des engagements par Israël. Le président américain Joe Biden s'est félicité du cessez-le-feu après tant de douleurs, de destructions, de pertes en vies humaines.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe armé M23 a pris le week-end le contrôle de la Lubumbashi, cette cité minière stratégique située dans le territoire de Kalehe, dans le sud Kivu, est particulièrement convoitée pour ses richesses naturelles. Les précisions avec Eddy Sango.
Après Lubumbashi, les combattants du M23 progressent vers Numbi et Sangé, toujours dans les hauts plateaux des Kalehe, a déclaré Thomas Bakenga, administrateur du territoire des Kalehe, riche en ressources naturelles, notamment en tourmaline, coltan, or et cassitérite. Selon des sources locales, l'attaque a eu lieu samedi vers 17h30 locale et la cité des Lubumbashi, dans la province voisine du sud Kivu, est passée sous contrôle du M23 qui continue d'étendre son emprise sur cette région minière. Cette nouvelle offensive survient après une série de gains territoriaux réalisés par les M23 dans les nord et les sud Kivu depuis sa résurgence fin 2021. L'armée congolaise mène actuellement des contre-offensives dans les zones touchées. Le président congolais Félix Tshisekedi a réaffirmé son refus de dialoguer avec le M23 qu'il qualifie des groupes terroristes. En décembre 2024, une rencontre de paix prévue à Luanda entre les présidents congolais et rwandais a échoué, les deux parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur les termes des pourparlers.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La croissance mondiale devrait rester stable à 2,7% ces deux prochaines années, selon le rapport de prévision économique de la Banque mondiale. Certains pays en développement devraient connaître la croissance la plus faible depuis 2000. L'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et l'Amérique latine devraient connaître une croissance plus robuste grâce à une demande intérieure forte de la Chine. Selon un rapport de projection économique du groupe de réflexion américain Brookings Institutions, 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences numériques en Afrique subsaharienne au cours des 5 prochaines années. Le document anticipe jusqu'à 650 millions d'opportunités de formation, ce qui pourrait représenter un marché de 130 milliards de dollars. Au Ghana, la Sakafia Islamic Senior High School à Kumasi est lauréate 2025 du prix Zayed pour le développement durable dans la catégorie collège et lycée du monde. Elle a été récompensée pour son projet novateur visant à lutter contre l'insécurité alimentaire tout en promouvant des pratiques agricoles durables au sein de l'école et de sa communauté élargie.
Classe maintenant sport avec Élisée Oumpatin. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Ozine et bonjour à tous.
Les coupes africaines des clubs de football au menu en Ligue des Champions, les Mamelodi Sundowns sont en quart de finale.
Oui, le club de Pretoria a validé son ticket pour le prochain tour après avoir concédé 1-1 à domicile contre l'ASFA du Maroc qui avait déjà assuré sa qualification. Il vient de finir deuxième du groupe plus que le Raja de Casablanca, vainqueur 1-0 des Congolais de Maniema Union qui ferme la marche avec 3 points.
Prochain adversaire pour les Sud-Africains, le Mouloudia d'Alger.
Les Algériens retrouvent les quarts de finale pour la première fois depuis 2021 après avoir ramené le nul 0-0 de leur déplacement en Tanzanie devant les Young Africans. Suffisant pour accompagner les Soudanais d'Al Hilal malgré leur défaite 4-0 à Lubumbashi contre le TP Mazembe. On écoute Khaled Ben Yahia, l'entraîneur tunisien du club algérien, satisfait de cette performance à l'issue d'un match compliqué, mais tout de même maîtrisé.
C'était un match costaud, un match de duel, un match de concentration, un match de discipline tactique, un match de rigueur. On a eu la première mi-temps deux occasions nettes de but. On aurait dû marquer et finir le match. Malheureusement, on les a ratés par précipitation ou par manque d'adresse. On a très bien géré la deuxième mi-temps sur le plan au niveau de l'animation défensive. On a été bien placé sur le terrain, on n'a pas laissé des failles à l'adversaire. On a fermé les intervalles, on a fermé les côtés. Je crois qu'on a bien saisi notre chance et c'est comme ça que parfois il faut gagner un match, il faut se qualifier.
Khaled Ben Yahia, entraîneur du Mouloudia d'Alger. Pour les autres affiches des quarts de finale, Al Hilal du Soudan jouera les Marocains d'Asfa, Orlando Parrot face aux Pyramides d'Égypte et puis l'Espérance de Tunis opposée au tenant du titre Al Ahly du Caire. Le remake de la dernière finale.
Le tableau est complet également en Coupe de la CAF.
Il restait 3 tickets à prendre et l'un est allé aux Ivoiriens d'ASEC d'Abidjan qui ont facilement dominé 4-0 les Botswanais d'Orapa United. Le second pour les Jésusiens d'Al Masry, victorieux 3-1 des Mozambicains de Black Bulls, et enfin le dernier aux Tanzaniens de Simba Sport qui ont disposé des Algériens du CS Constantine 2-0. En quart de finale, l'ASEC jouera le tenant du titre, le Zamalek, Al Masry, l'USM Alger et Simba Stellenbosch d'Afrique du Sud. Le dernier match mettra aux prises la renaissance de Berkane au CS Constantine.
De nouveau avec vous, Rosine Monet-Zero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Pour la première fois en 40 ans, l'investiture présidentielle américaine aura lieu ce lundi en intérieur. Washington considère que chaque investiture présidentielle est différente de la précédente, mais celle-ci se démarquera en plusieurs points. Caroline Presutti, correspondante principale de la VOA à Washington, nous en dit plus. Le récit est de Jean-Roger Billon.
Surnommé l'orchestre du président, l'orchestre des Marines s'est produit à chaque investiture depuis 1801. Mais cette fois, les musiciens n'auront pas à s'inquiéter du gel de leurs instruments, car l'investiture aura lieu à l'intérieur du Capitole des États-Unis en raison de températures glaciales. Aujourd'hui, ces musiciens vont égrener les notes musicales, tandis que Carrie Underwood va chanter « America the Beautiful ». Ensuite, ils joueront « Hail to the Chief » immédiatement après que Donald Trump aura prêté serment en tant que président. Le sergent-chef d'artillerie Leslie Barrett joue du hautbois depuis l'investiture de George W. Bush en 2001.
C'est peut-être la 7e fois que je participe à cette cérémonie, mais chaque fois c'est spécial. C'est un peu surréaliste de pouvoir participer à ce morceau d'histoire et de pouvoir observer et participer à cet événement majeur, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Donc tout sera peut-être pareil, mais ce ne sera plus jamais pareil.
La dernière fois que des températures glaciales ont obligé à déplacer la cérémonie d'investiture à l'intérieur, c'était en 1985. Pour le second mandat du président Ronald Reagan. Les préparatifs en plein air pour le quart de million de détenteurs de billets ont commencé il y a plus d'un mois. Ces préparatifs comprenaient la construction de la plateforme du Capitole, l'installation des tribunes pour le défilé et 48 km de barrières le long des trottoirs, soit plus que pour toute investiture précédente. Des milliers de personnes pourraient encore converger au National Mall à Washington pour assister à l'événement, y compris les novices, Xander Goss et Olivia Cannelly.
Je n'y suis jamais allée auparavant. Je suis nouvelle dans la ville, donc ça tombe bien.
Ma mère était enceinte de moi pendant 9 mois lors de l'investiture de George Bush, 4 jours avant de me donner naissance. Donc c'est peut-être ma deuxième investiture, techniquement.
L'investiture de ce jour a tout à voir avec la démocratie, malgré une élection polarisée. Anita McBride a travaillé à la Maison-Blanche sous 4 administrations.
Ce jour-ci envoie un bon signal aux Américains, de même qu'au monde. La preuve que notre pays est en pleine transition et que nous avons un nouveau gouvernement.
Après la prestation de serment, le président participe généralement à un défilé et sort de la limousine pour parcourir le dernier pâté de maison jusqu'à la Maison-Blanche à pied. Cependant, pour cette investiture, le nouveau chef de l'exécutif américain ne sera visible qu'à moins de 3 km du Capitole, dans une arène intérieure pouvant accueillir environ 20 000 personnes. L'histoire offrira une perspective différente pour la seconde investiture de Donald Trump.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La première ministre de la République démocratique du Congo a reporté l'application de la décision ajustant le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti à l'équivalent du 5 dollars le jour, soit le double de ce qui est jusque-là payé. L'ajustement annoncé avait provoqué des remous au niveau de différents milieux professionnels. Eddy Isango a joint à Kinshasa l'inspecteur du travail à la direction de sécurité technique, à l'inspection générale du travail, Anaclet Sofer Akula.
La première ministre a pris la décision de demander plutôt au ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de reporter son arrêté qui a apporté à réajuster le SMIG à 14 500 francs. Puisque pour la première ministre, il a considéré que cet arrêté est pris par précipitation. Normalement, il devrait y avoir d'abord le Conseil national de l'emploi avant de décider à rehausser le SMIC à la hausse. Et puis après, si nous devons nous référer aussi au premier SMIC, c'était le premier ministre qui avait décidé, qui avait pris un décret pour le SMIC. Il était aussi normal que lui-même aussi devrait aussi prendre les décrets pour rehausser le SMIC à la hausse, je pense. Ça, c'est la motivation de Mme Judith Toulouka, qui est la première ministre.
Le SMIC devrait donc, selon la décision du ministre de l'Emploi, être plus que doublé de 7 000 francs congolais à 14 500 francs congolais. Mais maintenant, il y a des craintes que les employeurs privés comme de l'État n'appliquent pas. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être fait même si aujourd'hui la Première ministre a décidé de reporter?
La Première ministre n'a pas reporté pour annuler. La Première ministre a demandé au ministre de l'Emploi de refaire le travail pour qu'enfin la décision soit propre. C'est vraiment la motivation du Premier ministre. Il n'a pas dit qu'on va laisser. Parce qu'en soi, c'est d'ailleurs l'attente de tout le monde, l'attente du monde du travail, des travailleurs. C'est cette conformité entre les dollars et les francs congolais. À l'époque, les SMIC était presque à 5 dollars 7075 francs congolais. Mais aujourd'hui, 7075 francs congolais n'est plus 5 dollars. Et actuellement, les 5 dollars, actuellement, c'est 14 500. Donc, c'est vrai que le ministre avait raison de réajuster ce SMIC, mais au moins, la raison aussi que Mme la Première ministre a demandé les reports, c'est aussi valable, parce que d'abord, c'est respecter la procédure avant de dicter la décision. C'est un peu ça. Mais je pense, le monde du travail, oui, mais éventuellement, ce sont des hommes d'affaires, ils ne vont pas accepter une fois pour dire que nous allons amener le SMIC à 75 et petit à petit, peut-être même par palier, on peut arriver à résoudre ces problèmes-là pour que le monde du travail, dont l'employeur est privé comme public, ne puisse pas avoir de problème pour l'application.
Est-ce que des mesures pour contraindre les employeurs privés comme de l'État à appliquer ces SMIC ont été prises? Si elles étaient prises, quelles sont-elles?
L'application de SMIG n'est rien d'autre que la descente sur le terrain de contrôle et de routine que les inspecteurs et contrôleurs du travail font pour amener et convaincre l'employeur sur le plan légal d'appliquer le SMIG. Et d'ailleurs même, ça c'est le chantier du chef de l'État. Quand il a parlé dans son premier chantier, il a présenté devant la nation, c'était l'amélioration des conditions sociales des agents et des travailleurs congolais. Donc là, je pense que c'est tout le monde qui doit aller dans le même sens que le chef de l'État pour l'application du SMIC et que le panier ménager des Congolais puisse être amélioré.
Anaclé Sofer Akula, inspecteur du travail à la direction de sécurité technique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Taxe sur la diffusion de musique, taxe sur la sécurité, l'hygiène et l'occupation du domaine communal. À Libreville au Gabon, commerçants et petits artisans tirent la sonnette d'alarme et réclament une harmonisation des prélèvements sur le marché. Beaucoup redoutent une faillite économique face à ce qu'ils qualifient de véritable désordre fiscal. Les réactions dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangdé.
Presque la gorge nouée de colère, Marie Solange évoque son dur quotidien. Cette restauratrice est étranglée par les taxes comme beaucoup d'autres acteurs du grand marché de Libreville.
Je me suis mis dans les dettes au jour d'aujourd'hui que je suis incapable de payer. Nous payons les loyers ici, nos loyers ici, nous payons nos loyers au plus tard le 30. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à payer les loyers parce que ça a mis beaucoup de commerçants ici dans de sérieux problèmes. On était obligé de prêter, monter, descendre, prêter l'argent à gauche, prêter l'argent à droite pour qu'on puisse nous ouvrir au moins pour que nous puissions nourrir ne fût-ce que nos enfants à la maison.
Un trop-plein de taxes qui nourrit de plus en plus le ras-le-bol sur le marché. Célestine, vendeuse d'habits, est désormais tentée par l'envie de tout abandonner.
On a envie de vouloir abandonner parce qu'on s'est dit déjà que le peu que nous gagnons, ça ne peut même pas là-bas nous aider dans les familles. Donc s'il faut encore payer encore des taxes, on trouve tout ça où? Et on a, nous ici, les Gabonais, on a essayé de dire, on avait dit quoi, que non, il faudrait qu'on puisse amener une chaîne télévision parce que nous devions parler, nous adresser au président de l'État pour dire que c'est vraiment avec tout ça, c'est trop fort pour nous. Aidez-nous.
Outre la mairie, d'autres administrations exercent un prélèvement sur les opérateurs économiques. Les réfractaires de la pression fiscale ont souvent vu leur boutique mise sous scellé. Jeune commerçant Jean-Michel en a souvent fait les frais.
Et quand ils mettent le scellé, il y a 50 000 d'abord, 55 000 pour retirer le scellé. C'est carrément, c'est une vache à lait. Donc la DGI va te dire, nous ça ne concerne pas ce que la mairie fait. La mairie va vous dire, ça c'est pour le trésor, ça ne concerne pas.
Daniel vend les tranches d'ananas dans une brouette au bord de la route. Il est assujetti également au prélèvement journalier des taxes.
Par jour, je peux me retrouver en train de payer 5 taxes. Mais il y a une autre taxe qu'on me fait payer qui est la fermeture tous les soirs qui est 1000 francs. En dehors des taxes, il y a certaines petites amendes qu'on paye parallèles. Parallèles, mais là-bas, je ne peux pas exposer parce que vous voyez.
En réponse aux cris de détresse des commerçantes, l'hôtel de ville de Libreville s'est dit favorable à une harmonisation des prélèvements de taxes sur le marché. Selon les analystes économiques, l'excès des taxes dont se plaignent les commerçants de Libreville pourrait mettre en mal la chaîne d'approvisionnement des produits de consommation, ce qui explique la flambée des prix sur les marchés. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Tchad, après plusieurs mois d'attente, les artistes tchadiens commencent enfin à percevoir leurs redevances sur les droits d'auteur ce week-end. Cela fait suite à une grogne des artistes depuis quelques semaines. Ils menaçaient de manifester devant l'ONAMA, Office national des médias audiovisuels, le plus gros utilisateur de leurs œuvres et qui n'a pas honoré ses engagements depuis plusieurs mois. André Côte-Mandigard, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Institué par la loi 5 de 2003 portant protection du droit d'auteur, des droits voisins et des expressions du folklore, ce droit conféré aux artistes tchadiens n'est pas régulier. Les associations regroupant les artistes disent qu'elles sont obligées de hausser le ton pour attirer l'attention des autorités.
La situation nous préoccupe tous. Et les plus hautes autorités de la République, en commençant par le président de la République, le maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, accordent une attention particulière à la question du bien-être des artistes tchadiens.
Salih Mahamat Ahmad, coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, il parle des efforts menés par son institution pour soulager la souffrance des artistes qui tirent le diable par la queue.
Tant que les gens ne sont pas rentrés dans leurs droits, il ne sert à rien de leur dire à chaque fois qu'on est en train de faire des efforts. Et donc, puisque les démarches dans ce sens sont en cours et que, connaissant la situation sociale des uns et des autres, et l'attente devient de plus en plus longue, on a décidé de payer le peu que le Budra a pu mobiliser dans le compte. Donc, c'est juste une solution aléatoire en attendant que le paiement des redevances soit effectif.
Le financement des droits d'auteur repose essentiellement sur les cotisations forfaitaires de 50 000 francs CFA par an prélevées auprès des petits usagers tels que les bars, restaurants, discothèques et autres lieux diffusant des œuvres artistiques. L'ONAMA, qui devait consacrer 6% de son budget annuel aux droits d'auteur pour son rôle majeur dans la diffusion de la musique et des créations des artistes, n'a pas honoré ses engagements. Pour Dounia Togyangar, coordonnateur des plateformes des artistes, trois catégories d'artistes sont concernées.
C'est-à-dire les musiciens, comme c'est eux qui utilisent beaucoup leurs œuvres, ils ont un pourcentage plus élevé. Les arts dramatiques et cinéma viennent en deuxième position. Et ensuite vient en troisième position la littérature et puis les arts plastiques. Donc, dans chaque catégorie là, les montants sont les mêmes pour le moment. Nous, on a dit aux artistes avant de déclencher la paye de patienter, de prendre ce que eux-mêmes les artistes appellent les miettes ici là, et on compte sur la bonne foi de l'ONAMA pour qu'ils puissent verser les 195 millions qui nous revient de droit.
Les bénéficiaires dénoncent ce qu'ils considèrent comme un manque de respect.
C'est pas ce que on attendait, c'est 45 000 à tous les artistes qu'ils ont donné, et dit-on que c'est l'argent collecté des bars, mais la part même que l'ONAMA doit verser, c'est pas fait, et c'est depuis 3 ou 4 ans déjà. Ça fait pitié.
Je peux dire ça va, mais normalement là, c'est quelque chose qui devrait être automatique. Ne pas attendre que les artistes se manifeste, il se fâche. C'est comme s'il faut d'abord secouer le cocotier avant que le fruit ne tombe. Ce n'est pas bon. Un 25 000, un 45 000, pour toute l'année, c'est maigre. Chaque année, c'est la même chanson. Attendez que la seconde partie viendra, mais après l'année passe. Donc, c'est les mêmes phrases que l'entend. Attendons de voir si vraiment ils vont changer.
Les plateformes d'artistes n'entendent pas s'arrêter là. Elles menacent de se tourner dans les jours à venir vers les radios privées pour exiger le versement de leur cotisation forfaite annuelle de 50 000 francs CFA au bureau du droit d'auteur. André Kodouma Dingar, Njamena, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezero, à la mise en onde, Georges-Léonard Sagnou. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.